France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Joséphine Reynard, Sacha Mattei, Gwendoline Troiano et Antoinette Benoît, avec un coup de main d'Abel Sauvé qui était avec nous en stage la semaine dernière. L'émission est réalisée par Cassandre Puel et à la technique, c'est Jean-Guilain Meige. C'est le troisième volet de notre géographie sensible des deltas, ces espaces perdus entre les bras d'un fleuve et l'étreinte de la mer. Nous avons parlé du delta du Danube, transformé par la guerre en Ukraine, du delta du Nil que le pouvoir politique étire vers le désert. Aujourd'hui, le delta du Niger, totalement souillé par le brut.
Le pétrole s'infiltre partout dans nos fermes et détruit tout. L'odeur est nauséabonde. Cela tue le peu que nous cultivons. Qu'est-ce qu'on leur a fait ? Dites-leur de venir nettoyer notre environnement et de nous payer nos indemnités.
Shell a pollué nos terres et détruit notre mode de vie. Ils nous traînent de tribunal en tribunal. Ils dépensent des milliards de livres sterling seulement pour échapper à leurs responsabilités vis-à-vis des atrocités qu'ils nous ont infligées.
Nous sommes allés occuper la station de pompage de Chevron pour protester, mais il ne s'est rien passé. Ils n'ont rien voulu entendre. Nos mères ont occupé les lieux, mais ils ont même essayé d'envoyer l'armée pour nous déloger et nous chasser. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons rien obtenu, alors que nous souffrons de la pollution.
Une pluie noire et visqueuse, une rivière gluante coulant par flots intarissables. Dans le delta du Niger, il ne se passe pas un jour sans une fuite de pétrole. Rien que l'année dernière, plus de 600 ont été répertoriés, 3 millions de litres déversés dans la nature, l'équivalent d'une centaine de camions-citernes. Et il faut voir les cours d'eau dont le débit est comme ralenti par la lourdeur de l'hydrocarbure. Les racines des mangroves étouffées par cette huile gluante jusqu'aux crabes que les habitants avaient l'habitude jadis de manger. Pour ceux qui réussissent à s'extraire de la nappe pâteuse, leur démarche est alors toujours de guingois, mais soudain complètement alourdie. Les entreprises pétrolières ont toujours la même réponse quand on leur demande d'où proviennent ces fuites. Ce sont des voleurs de pétrole qui percent les oléoducs à la dynamite. Certes, le trafic illégal existe et l'armée nigériane découvre régulièrement des raffineries sauvages, mais les multinationales aussi sont en cause. On sait combien elles ont délaissé leur réseau, surtout depuis que l'exploitation en mer est beaucoup plus rentable. La pollution atteint un tel niveau qu'elle rend malade les enfants, compromet la pêche ou l'agriculture. Les habitants se mobilisent avec des actions en justice visant principalement le groupe anglo-néerlandais Shell. Nous sommes bien là où le fleuve Niger se jette dans la mer, dans le golfe de Guinée, c'est-à-dire dans le sud du Nigeria, où se trouve notre invité Moïse Gomis. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous depuis Lagos. On entend la rumeur de Lagos. Vous êtes en ce moment tout près d'une voie rapide qui mène dans la ville d'Ibadou. Donc c'est un axe majeur très important. On entend les camions qui roulent. Merci d'être avec nous depuis Lagos. Vous êtes correspondant pour France 24 et RFI. Vous avez co-réalisé avec Judith Rueff un documentaire pour Arte diffusé il y a quelques semaines, Nigeria, les germes de l'espoir, dont nous avons entendu et entendrons plusieurs extraits. Bonjour Benjamin. Benjamin Augier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio, chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne et énergie climat de l'IFRI. Vous êtes spécialiste des pays pétroliers africains, auteur d'un chapitre dans l'ouvrage Les conflits dans le monde, approche géopolitique, le pétrole au delta du Niger, une ressource vecteur de conflits. C'est donc le titre de ce chapitre que vous avez signé dans ce livre dirigé par Béatrice Gibelin et paru chez Armand Collin. Alors d'abord, puisque cette émission s'inscrit dans une série sur les deltas, qu'est-ce qu'on appelle le delta du Niger, Benjamin Augier, des trois deltas dont on parle depuis le début de la semaine? C'est, me semble-t-il, celui qui est le moins facile à définir géographiquement.
Je pense qu'il y a une définition de géographie physique comme tous les deltas, mais ce qui caractérise le delta du Niger au Nigérien, c'est véritablement que c'est une construction géopolitique, dans le sens où c'est la seule zone au Nigeria où on produit le pétrole. Et donc, pour du point de vue de Abuja, donc du pouvoir fédéral, cette région est gérée de manière spécifique. Et tant et si bien que de 2008 à 2023, il y avait un ministère en charge du Niger Delta, comme on dit au Nigeria, et qui travaillait vraiment uniquement au développement de cette région-là. Il a disparu en 2023 pour faire place à un ministère qui est chargé des développements régionaux. Donc là, c'est plus Delta du Niger. Mais ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que c'est spécifique du fait que c'est le seul endroit, à l'exception d'un gisement en face de Lagos, qui produit la totalité de la production pétrolière et gazière au Nigeria. Et comme c'est le premier producteur de pétrole en Afrique et le pays avec les plus grosses réserves de gaz en Afrique, eh bien c'est quelque chose de très significatif dans l'économie de ce pays.
Donc presque une construction géopolitique ou politique. Quand on parle du delta du Niger, on parle de la production pétrolière au Nigeria. Moïse Gomis, est-ce qu'on peut néanmoins décrire le delta qui, toute construction politique qu'il soit ou qu'il fût, n'en reste pas moins une véritable zone de delta où le fleuve Niger se jette dans l'océan Atlantique, dans le golfe de Guinée, après une course de plus de 4000 kilomètres.
Et en fait, le Niger se jette à travers des myriades de petites rivières, parce qu'il est complètement éclaté. Et quand on pénètre la zone qui est la zone pétrolière, on se retrouve dans un paysage de mangroves, de zones humides, de forêts. C'est une zone qui est difficile d'accès. Il y a des villages qui sont disséminés un peu partout et des communautés de pêcheurs, mais qu'on peut accéder principalement par bateau. Et donc c'est une zone qui apparaît un peu comme hostile, même si les populations au demeurant sont assez accueillantes quand on y va de façon répétée. Mais une zone qui apparaît comme hostile parce que aller en bateau dans une zone où on se retrouve dans l'ère moderne sans moyen de communication parce que les antennes téléphoniques relais ne fonctionnent quasiment plus et que c'est quand on arrive dans les villages que là, à nouveau, le téléphone se remet à fonctionner. Donc, c'est des paysages composés essentiellement de mangroves, zones humides et avec auparavant, c'était une zone où il y avait une diversité, une faune et une flore qui était assez diversifiée. Et aujourd'hui, avec 70 ans d'activité pétrolière, c'est une zone qui est ravagée, malheureusement.
Une activité pétrolière qui se voit, qui se sent, qui se voit aussi et surtout par les fumées permanentes au-dessus du delta.
Vous voyez ce torchage? Au départ, il nous avait dit qu'il n'y aurait pas de torchage. Aujourd'hui, regardez vous-même, il brûle du gaz. Depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, cette torche ne s'est jamais arrêtée de brûler. Quand la flamme monte à son maximum, elle dégage une fumée noire. Et quand la pluie tombe, on peut voir des particules noires qui retombent dans l'eau et nous ne pouvons plus la boire. Vous pouvez voir, il n'y a plus de terre ici, plus rien. Nous sommes en train de mourir. Il n'y a plus de poissons, plus rien. Nous mourons.
Un extrait d'un reportage pour la chaîne Investigation et Enquête. Le torchage, cette pratique du torchage, brûler le pétrole sur place pour le raffiner, c'est la façon dont on raffine le pétrole dans le delta du Niger. C'est quelque chose d'autorisé, Monsieur Auger?
En fait, le torchage, c'est le gaz associé. C'est-à-dire que sur chaque gisement de pétrole, vous avez du gaz associé. Et si vous n'avez pas un réseau qui peut reprendre votre gaz pour pouvoir l'amener à des centrales électriques, les sociétés pétrolières le torchent, donc le brûlent. Et ça, c'est illégal depuis plusieurs décennies au Nigeria. Mais comme les amendes sont suffisamment peu importantes, eh bien, les pétroliers préfèrent payer les amendes et continuer à torcher, malheureusement.
Parce que extraire du pétrole dans un delta, est-ce que ça nécessite des moyens particuliers, des techniques particulières? Ou ça se fait comme partout ailleurs?
Non, ça se fait comme partout ailleurs, mais ce qui fait qu'il y a beaucoup de production en eau peu profonde, comme on dit. Il y a donc trois types de production au Nigeria. Il y a une production donc complètement onshore, en terre, une production shallow water, donc en eau peu profonde, et il y en a beaucoup dans cette région du Delta, et donc l'offshore et le deep offshore. Et comme vous le disiez dans votre introduction, de plus en plus pour des questions assez politiques et sécuritaires, les pétroliers, en particulier les grandes majors occidentales, préfèrent faire de l'offshore et de l'offshore profond parce que, notamment, c'est compliqué au niveau de la sécurité et aussi parce qu'ils ne se font pas pirater leur production qui est donc beaucoup moins volée en offshore profond.
Shell, Eni, Total, par exemple, font partie de ces majors qui sont sur place pour extraire du pétrole. Quand les premières réserves ont été identifiées là dans les années 50, Moïse Gomis, il y avait des populations qui vivaient à l'emplacement des actuels puits. Comment ça s'est passé avec les populations locales ?
Mais en fait, ce qui s'est passé dans les années 50, c'est qu'on était dans un pays, le Nigeria, qui était essentiellement producteur d'huile de palme. C'était le premier producteur d'huile de palme, un produit exportateur net en produits agricoles. Donc c'était une zone hyper agricole. Et donc quand la production pétrolière a commencé, les majors pétrolières sont venues dans les communautés prendre des terrains en signant des licences auprès de populations qui n'étaient pas au fait de ce qu'il y avait dans leur sous-sol. Et donc les gens ont fait confiance et ont signé des bails qui ont été sur 20 ans à des sommes modiques. Et ce qui a été aussi difficile, c'est que l'État nigérian, qui est devenu indépendant au niveau des années 60, a fait du pétrole l'une de ses priorités. Et quand on a commencé à trouver du pétrole un petit peu partout dans cette région du delta du Niger, un certain nombre de communautés ont même été expropriées de certains terrains agricoles. Et c'est là qu'on a commencé à construire des oléoducs un petit peu partout, puisque cette production pétrolière, elle avait comme objectif de permettre l'exportation de ce pétrole, mais aussi à ce qui est du raffinage local. Donc 4 raffineries ont été construites et disséminées un petit peu partout dans le pays, et notamment dans le nord du Nigeria. Et donc ce qui fait que le delta du Niger est une zone où il y a des milliers de kilomètres d'oléoducs qui sont répartis un petit peu partout. Des oléoducs qui sont visibles dans certains endroits, mais dans la majorité des cas, c'est dans le sol. Et c'est là où le problème commence, puisque en ayant des oléoducs dans le sol, on touche les nappes phréatiques. C'est là où le problème commence.
C'est là où le problème commence et vous suivez par exemple une dame de 65 ans qui raconte comment petite elle accompagnait sa mère pour ramasser les coquillages et les écrevisses et en 2011, elle s'en souvient, en 2011 elle n'a rien attrapé mais cette image paradisiaque, ces vieux souvenirs du Delta ne sont pas propres aux plus anciens puisque vous suivez aussi une jeune femme qui a 28 ans qui s'appelle Princesse Jordan, représentante de la communauté Bodo et qui a connu elle aussi petite un tout autre paysage.
Je me souviens être allée à la ferme avec ma grand-mère. Sa ferme était de l'autre côté de la rivière. Nous montions dans le canoë. Je ne savais pas pagayer, alors elle pagayait. Sur le chemin de la ferme, tout était toujours beau. Des deux côtés de la rivière, il y avait des mangroves. Elles étaient grandes. Elles étaient très grandes. Elles étaient magnifiques. Et en revenant en 2020 pour travailler, c'est à peine si je pouvais en voir. Alors, j'ai demandé à quelqu'un, « Mais où sommes-nous ?» La personne m'a répondu, « Tu es sur la rivière de Bodo. » Non, ce n'est pas le Bodo que j'ai connu. Le Bodo que j'ai connu était rempli d'arbres, rempli de mangroves. Où sont-elles passées, ces mangroves ? Et la personne a répondu, « C'est justement ce que le pétrole a tué. » J'en étais tellement amère. I was so
bitter. Princesse Jordan, que vous avez filmé, Moïse Gomis, pour votre documentaire. Quand on est dans le Delta, avec elle, à marcher autour des mangroves, à regarder les paysages, est-ce qu'on voit du pétrole brut partout ?
Aujourd'hui, on voit pas le pétrole brut dans une communauté comme Bodo, parce que il y a une opération de dépollution qui est en cours et qu'il faut s'enfoncer en fait très profondément dans la mangrove pour voir des endroits où il y a encore du brut qui est présent. Mais dans une communauté comme Bilé, qui est en cours de procès avec Shell, les territoires sont complètement affectés. Les zones où la pollution s'est passée, il n'y a plus de vie, plus de mouches, plus de moustiques. On a l'impression que tout a été cristallisé, c'est même incroyable. Et quand on faisait ce tournage, quand on était dans Bilé, quand on nous a fait rentrer dans la zone qui était affectée par la pollution, plus personne sur le bateau ne parlait. Et les gens du village qui étaient avec nous, même eux étaient silencieux, et même eux étaient traumatisés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois qu'il y a une pollution, il n'y a pas de déclaration d'urgence, de catastrophe naturelle. Les populations restent sur place, les populations continuent à respirer l'air, les populations continuent à boire de l'eau parce qu'il n'y a pas d'autre solution, même s'il y a des mesures d'urgence qui sont prises pour où on va amener de l'eau pour permettre aux gens d'avoir de l'eau potable. Mais arrivé un moment au Nigeria, ces opérations ne sont pas permanentes. Elles s'arrêtent et les gens après continuent à vivre normalement. Et c'est vrai que l'amertume et la détresse des populations du Niger, du Delta, c'est que elles ont l'impression de vivre dans une zone qui permet la richesse du Nigeria et que elles ne bénéficient pas des retombées de l'or noir.
Vu du ciel, alors pas trop, mais au-dessus de la rivière, dans votre documentaire, on voit bien des taches irisées partout, l'iridescence des résidus de pétrole dans les marais, même si ailleurs, au fil du temps, la pollution a été comme digérée par l'environnement, par les sols, notamment les mangroves qui finissent par absorber les hydrocarbures avec tous les effets qu'on peut imaginer à terme. Mais juste un petit mot aussi, Moïse Gomis, pour expliquer que un jour vous êtes allé tourner dans un village près duquel une explosion avait eu lieu quelques jours plus tôt. Qu'est-ce qui s'était passé? Comment les villageois vous ont raconté aussi les symptômes qu'ils ont tout de suite sentis?
Bah effectivement, c'était dans l'état de Bayelsa, donc l'état voisin de l'état de Rivers. Donc un puits de pétrole avait explosé. Donc c'était en novembre 2021. Et donc, ça a affecté toute une rivière qui s'appelle la rivière Santa Barbara. Et donc, c'était assez incroyable parce que comme on décrivait en début d'émission, du gaz s'échappait, le pétrole s'échappait comme du geyser. Et donc, les populations qui habitaient dans le secteur, notamment dans un village qui s'appelle Nembe, à une vingtaine, trentaine de kilomètres de l'épicentre, à Nembe, les gens respiraient les émanations de gaz et ça a été assez dramatique parce que des enfants et des personnes âgées, quelques personnes sont mortes. Beaucoup de gens ont été intoxiqués par le gaz. J'ai rencontré un chef de village à l'époque qui me disait qu'ils avaient l'impression d'être en cage, d'être dans leur village, mais d'être en cage et d'être pris au piège à cause du gaz qu'ils respiraient. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand cette explosion de ce puits s'est déroulée. La compagnie pétrolière a mis 4 jours à reconnaître que il y avait eu un incident. Elle se réfugiait, comme d'habitude, sur le fait qu'elle estimait que c'était du piratage, du vol de pétrole. Donc, elle a mis du temps à réagir. Et en fait, cette pollution s'est déroulée au moins pendant une semaine et tant et si bien que même le gouverneur de l'État de Bayelsa a décidé de porter plainte. Il y a une procédure en justice en cours parce que même si l'agence qui réagit à chaque fois quand il y a des pollutions pétrolières, donc une agence fédérale qui s'appelle la NOSDRA, s'est dépêchée assez rapidement à ce moment-là. Et moi, c'était au moment où je venais faire mon tournage. La NOSDRA s'est réfugiée derrière la position de la compagnie pétrolière. Et les habitants, beaucoup d'habitants, manifestaient et se plaignaient. Et donc le gouverneur, pour une fois, s'est aligné en faveur des habitants. Mais généralement, au Nigeria, quand il y a une catastrophe dans un village comme ça, la situation reste telle qu'elle et les habitants subissent la situation.
Un habitant vous a même dit qu'il a eu le réflexe de boire une boisson gazeuse, de se servir une boisson gazeuse pour bénéficier de l'oxygène qui était dans les bulles de la boisson. Alors, à chaque fois que les sociétés pétrolières sont mises en cause, que ce soit pour des explosions ou pour des fuites, elles répondent, et c'est ce que Shell vous a répondu, Moïse Gomis, comme à tous les journalistes qui l'ont contacté, le pétrole est de toute façon volé à une échelle industrielle dans le delta du Niger. Cette criminalité est une source majeure de pollution et est à l'origine de la majorité des déversements de pétrole. C'est toujours ce qui est répondu. Alors, Benjamin Auger, comment faire la part des choses entre les fuites provoquées par un mauvais entretien du réseau d'oléoduc, qui devrait pourtant être entretenu avec une extrême minutie et rigueur par les compagnies pétrolières, et par les fuites ou les explosions provoquées par le vol et les pillages?
C'est extrêmement difficile de faire la part des choses. Les deux raisons sont valables. Il y a Il y a une part qui est liée vraiment au fait qu'il y a une corrosion très importante sur des pipelines qui sont extrêmement anciens, parce que la production justement a commencé en 1958 et il y a assez peu d'entretien. Et il y a aussi assez peu d'entretien parce que justement ces majors vont en offshore et donc elles ont de moins en moins d'intérêt à faire en sorte que les pipelines soient bien entretenus et que petit à petit c'est des sociétés locales qui reprennent les gisements onshore. Depuis au moins une quinzaine d'années, Shell, Total, Eni, Exxon, Chevron ont vendu par appartement la plupart de leurs gisements onshore.
Par appartement ?
Par appartement, c'est-à-dire par bloc, si D'accord. vous voulez, par zone, quoi. Pas d'un coup. Et donc, bah forcément, il y a eu assez peu d'investissements dans les pipelines qui sont extrêmement anciens. C'est vrai que le vol est très important, quotidien, mais c'est pas véritablement sur les pipelines qu'une grosse partie du vol se fait, parce que autrement ça n'arriverait pas du tout au volume qu'on a actuellement. Hein. Alors évidemment, on peut pas savoir quel est le volume exact, mais c'est entre 250 000 à 400 000 barils par jour qui sont volés, ce qui équivaut à la production cumulée du Congo et du Gabon, donc c'est absolument considérable. Donc en fait, c'est l'utilisation des infrastructures existantes, y compris des tankers dans les grands ports, qui est le gros du vol de pétrole. Les vols par pipeline, c'est-à-dire en faisant exploser les pipelines, c'est une très petite partie du volume qui est volé.
D'autant que l'armée nigériane est partout, à chaque coin de mangrove, si j'ose dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que certains, on peut imaginer que certaines unités de l'armée laissent faire, simplement, ou alors qu'ils sont débordés, qu'il y a des accointances. Enfin, comment expliquer que malgré le fait que sur les images du documentaire de Moïse Gomis, mais plus généralement, on sait que dans le delta du Niger, il y a l'armée nigériane partout. Néanmoins, vous avez dit combien, entre 250 000 et 400 000 barils par jour, ou l'équivalent, sont volés au Nigeria?
Bah c'est assez simple. Si vous faites si vous prenez le volume et l'argent que ça peut générer par rapport au volume, donc c'est quelque chose qui est de l'ordre de plusieurs milliards de dollars, à peu près 10 milliards de dollars par an, qui est généré par l'industrie illégale du pétrole au Nigeria. Donc en fait, ça a un impact très important sur le financement de campagnes électorales localement et au niveau fédéral, et aussi au niveau de l'armée que vous évoquez. Donc en fait, pour que tout cela puisse se passer sans problème, il faut qu'un certain nombre d'acteurs représentant l'État fassent partie justement de cette organisation, d'autres diraient de cette mafia, et ils sont protégés parce que justement, les gens qui sont à la tête des cartels du vol de pétrole sont très proches des hommes politiques, voire font partie du personnel politique, localement, au niveau des gouverneurs, ou au niveau fédéral. Donc en fait, ça s'auto-entretient. C'est extrêmement difficile de lutter contre une industrie illégale qui génère un tiers du budget de l'État, en comparaison. Donc c'est absolument considérable. Il n'y a aucun pays dans le monde qui est dans cette situation-là. Le Mexique, il y a aussi beaucoup, beaucoup de vols de pétrole, c'est beaucoup plus faible.
L'armée nigériane est néanmoins très fière, Moïse Gomis, de vous montrer qu'elle utilise désormais les bulldozers pour détruire des raffineries illégales quand elle en trouve. C'est ça, ce paysage de désolation que vous filmez avec des tuyaux par terre, avec un robinet d'où s'écoulent en continu des flots de liquide noir, avec des sacs en plastique énorme et gonflé que des militaires s'attachent à tâter d'abord, puis trouer avec une sorte de lance. C'est ça, une raffinerie illégale?
Oui, c'est ça, une raffinerie illégale, mais je dirais que ces raffineries illégales sont de l'ordre artisanal. Quand les grandes compagnies internationales disent que le vol du pétrole est effectué dans ces communautés, beaucoup de gens dans les communautés disent que, d'une, ils n'ont pas d'oléoduc, de deux, ils n'ont pas des moyens techniques énormes. Beaucoup à demi-mot reconnaissent que le vol de pétrole se fait dans leur communauté, mais ils le justifient par l'extrême pauvreté qu'il y a dans le delta du Niger. Et puis surtout, quand on pénètre dans une raffinerie illégale, on est frappé, parce que j'ai eu la chance de faire un reportage dans une raffinerie illégale et j'accompagnais l'armée et la police qui venaient détruire. En fait, on se rend compte que les outils qui sont utilisés sont vraiment rudimentaires, quoi. Des cuves qui sont du matériel de récupération, des tuyaux qui sont du matériel de récupération, le raffinage qui se fait vraiment de manière artisanale. On a l'impression que ce sont des biochimistes avec des cuves à essai qui font le transfert, qui font bouillir. Mais tout ça se fait de manière artisanale. Et à chaque fois que ces raffineries sont détruites, il y en a une dizaine qui sont reconstruites ailleurs, parce que le le contexte social d'extrême pauvreté est toujours présent dans le delta du Niger. Et pour l'instant, le gouvernement fédéral, mais les gouvernements locaux également, ne proposent pas d'alternative à ces populations du delta du Niger. Et on se retrouve dans un cercle vicieux qui se perpétue.
Vous avez rencontré par exemple Kingsley Ogarania, qui est un repenti entre guillemets du raffinage illégal. C'est l'ancien membre d'un groupe de raffineurs illégaux et qui en est venu un jour à piller donc du pétrole.
Je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien à faire pour gagner sa vie ici. On ne pouvait pas cultiver, on ne pouvait pas pêcher. Autour de nous, il n'y avait rien à faire. Le gouvernement ne se souciait pas de nous. On a donc rejoint l'un de nos frères pour commencer à travailler dans une raffinerie illégale. La première fois que je suis arrivé à la raffinerie illégale, j'ai eu très peur. J'étais effrayé par l'intensité du feu utilisé pour raffiner le pétrole brut. Le moment le plus effrayant pour moi s'est produit 3 semaines après avoir rejoint le gang des raffineurs illégaux. 3 personnes ont été brûlées dans les flammes.
Alors si le vol de pétrole existe au Nigeria depuis la fin des années 90, qu'il a explosé depuis, qu'il génère plus de 10 milliards de dollars aujourd'hui, qui finance une mafia bien organisée, comme vous nous disiez, Benjamin Auger, et surtout qui alimente aussi, en l'occurrence, enfin la production de pétrole, des milliards et des centaines de milliards de dollars pour les majors du pétrole, la population du delta du Niger, elle, reste pauvre. Quand a commencer à poindre une contestation, Benjamin Auger, de cette exploitation du pétrole dans le delta du Niger?
Alors ça a commencé début des années 90 et ça a commencé dans une petite communauté, communauté des Ogoni, donc qui représente à peu près 500 000 personnes. Donc c'est vraiment une communauté extrêmement faible, pas du tout majoritaire dans cette région, et ça a été extrêmement pacifique au début, c'est-à-dire c'était contre Shell en l'occurrence, c'était donc dans l'état de Rivers. Et c'était en gros des sit-ins devant le siège local de Shell, ou alors le siège régional de Shell à Port Harcourt, donc qui est la grande ville du delta du Niger. Et donc, comme on était dans une période politique assez maintenue, assez forte, sous Sani Abacha, donc qui était le président de 93 à 98, après avoir fait un coup d'état en 93, et qu'il n'appréciait pas beaucoup la contestation, et bien donc il a pendu les 10 leaders de ce groupe qui s'appelle le Mozop, dont Ken Saro Wiwa, le leader de ce groupe là, on en parlera dans le focus plus tard. Mais c'était vraiment quelque chose de pacifique, et petit à petit c'est devenu, comme ils n'ont rien obtenu, ni en argent, ni en nettoyage, ni en respect, ni en emploi, etc., c'est monté en puissance avec un autre groupe, et là c'est le groupe majoritaire de la région du Delta, donc on appelle les Ijo. Et les Ijo représentent à peu près 10 millions de personnes, donc c'est vraiment très significatif. Et notamment un groupe qui s'appelle le Ijo Youth Council, et qui a commencé à envisager des manifestations violentes contre les représentants de l'État dans les grandes villes de la région, que ça soit à Wari ou à Port Harcourt. Et ça a été donc de plus en plus musclé. Ça a été aussi tué dans l'œuf, notamment à l'arrivée d'Obasanjo, le président qui est arrivé en 99. On a créé la NDDC, donc une organisation dont l'objectif est de créer des infrastructures et de créer des opportunités d'emploi pour les gens de la région. Mais il a rien changé sur la redistribution de l'argent à cette région-là, sur le nettoyage de façon industrielle des zones souillées, etc. Et donc, un nouveau mouvement est né en 2006, donc qui s'appelle le MEND. Et là, pour la première fois, dans l'acronyme et dans le nom, il n'y a pas de groupe ethnique qui est mentionné. Donc c'est Movement for the Emancipation of the Niger Delta. Donc là, on revient sur la question géopolitique. Il représente le delta du Niger et pas une tribu. Et là, l'objectif, c'était de dire, vous ne voulez pas négocier avec nous pour une meilleure répartition de l'argent du pétrole et pour un meilleur respect par rapport à la population habitante, vous, les gens de la fédération qui sont à Abuja, nous allons donc détruire la capacité du Nigeria à produire du pétrole. Et donc, c'est ce qui s'est passé entre 2006 et 2009. La production pétrolière a été divisée parfois par 3, par 4 certains jours. Et donc le président de l'époque, Umaru Yar'Adua, a été contraint en 2009 de faire une amnistie qui a représenté quand même un grand volume parce que 30 000 personnes y ont souscrit. Et elle est toujours en cours actuellement, c'est-à-dire que ça coûte à l'État fédéral 150 millions de dollars par an. Et donc ça a permis en 2009 d'arrêter les violences, mais ça n'a rien changé sur le fond. C'est-à-dire que la répartition est toujours la même, c'est-à-dire que 13% des revenus du pétrole sont redérivés aux 9 États producteurs de pétrole au Nigeria, et les 87% après sont répartis dans toute la fédération. Et donc en fait, les demandes depuis les années 90 avec le MOSOP jusqu'au mouvement du MEND n'ont absolument rien changé sur les demandes politique et de redistribution de l'argent pour ces populations-là.
D'où la création en 2016 d'un autre groupe, les Niger Delta Avengers, les Vengeurs du Delta du Niger, avec un homme à l'initiative de ce mouvement qui s'appelle le général Tompolo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette figure intéressante du Delta du Niger ?
Alors là, c'est quelque chose qui est très propre à la façon de faire pression sur le pouvoir fédéral, qui n'est pas propre au Delta du Niger, mais à toutes les régions du Nigeria. Si on n'arrive pas à vous entendre, vous créez un mouvement. Tompolo est un des leaders du MEND. Quelqu'un qui est extrêmement respecté, il vient de l'état de Delta. Et c'est vraiment quelqu'un qui a été l'un des meneurs du MEND. En 2016, quand il crée la Niger Delta Avengers, il a jamais dit qu'il en était l'initiateur, mais tout le monde le sait. C'est parce que le nouveau pouvoir arrivait au Nigeria en 2015, donc de Mohamedou Buhari, met la pression sur lui et lance des poursuites judiciaires. Et donc pour bien faire comprendre au pouvoir de Buhari, qui est un nordiste, hein, il vient de l'état de Katsina, donc frontalier avec le Niger, pour bien lui faire comprendre que c'est pas aux nordistes que revient la possibilité de gouverner dans la région du Delta, il crée ce mouvement-là avec les mêmes objectifs que le MEND, c'est-à-dire détruire les capacités de production pour pouvoir justement faire en sorte que les poursuites judiciaires soient abandonnées. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a pris quelques années, mais elles ont bien été abandonnées. Donc c'était vraiment pour un homme et pour bien faire comprendre un message politique qui est maintenant très très clair. Les gens du Delta du Niger considèrent que comme l'État fédéral ne prend pas ses responsabilités et ne répartit pas différemment l'argent, eh bien ils vont se servir d'une manière ou d'une autre sur le pétrole qu'ils considèrent comme leur appartenant. Et pas au Nigeria, mais appartenant aux personnes du delta du Niger. C'est entre 30 et 40 millions de personnes quand même, c'est pas négligeable. Et depuis donc le Niger Delta Avengers, il n'y a pas eu d'autres mouvements qui sont venus se greffer pour cette lutte pour la meilleure répartition des revenus pétroliers.
Et les membres de ces groupes qui ont donc été amnistiés par milliers, 30 000 personnes, Moïse Gomis, que deviennent-ils? Les anciens combattants de ces groupes, pour qui travaillent-ils? Comment ont-ils trouvé de l'emploi? Est-ce qu'il y a eu une forme de réinsertion? Comment ça s'est passé?
Pour les leaders qui ont été amnistiés, beaucoup ont bénéficié de contrats. Donc ils ont créé des sociétés et ils se retrouvent à sécuriser les oléoducs et à créer de l'emploi autour de l'eau. Autour d'eux, Tompolo aujourd'hui est considéré comme un philanthrope dans le delta du Niger. Il a une fondation, il donne des bourses à des étudiants de sa région, il crée des dispensaires, il ouvre des puits, c'est une personne notable. Il y a un autre aussi dont j'ai oublié le nom, qui rentre au palais présidentiel, peut parler avec le président Tinubu assez facilement et de temps en temps menace le Nigeria si jamais on change les choses et qu'on leur retire leur contrat. En tout cas, on se retrouve avec une situation qui est paradoxale où des gens qui se présentent comme des Robins des Bois sont devenus des milliardaires. Ils disent défendre la population du delta du Niger, mais dans les faits, si quelques individus ont pu s'enrichir, l'immense majorité des habitants du Niger reste dans la même situation sociale et n'ont pas du tout bénéficié de cette amnistie.
Alors laissons là les Robins des Bois devenus milliardaires pour nous intéresser à ces habitants qui, eux, entreprennent sans violence d'autres actions, actions en justice principalement. Moïse Gomis, la communauté du village de Bodo, touchée par des pollutions spectaculaires en 2007-2008 dues à des fuites provoquées par cette obsolescence du réseau, a réussi à faire condamner la compagnie anglo-néerlandaise Shell, laquelle a dû verser 80 millions de dollars de dommages et intérêts en lieu et place des 4000 dollars et quelques sacs de riz qu'elle avait proposé au départ pour un règlement à l'amiable. Elle est obligée également de dépolluer. Alors on verra si c'est possible aujourd'hui de dépolluer le delta du Niger. Néanmoins, est-ce que ce cas du village de Bodo a créé un précédent juridique? Est-ce que d'autres communautés ont profité de cette victoire pour porter plainte contre des multinationales du pétrole?
Donc, avant le village de Bodo, il y avait beaucoup de communautés éparpillées qui portaient plainte contre Shell dans les juridictions nigérianes, et ça n'aboutissait pas. La communauté de Bodo s'est organisée, plusieurs milliers de personnes se sont organisées, ont été soutenues par un certain nombre d'organisations telles que Amnesty, les Amis de la Terre, mais aussi des associations locales nigérianes. Et donc, ils ont réussi à faire condamner Shell. Et donc, ce cas de Bodo est un peu le cas d'école, puisqu'il y a deux autres communautés, la communauté de Ogalé, la communauté de Bilé, qui sont actuellement en procès contre Shell. Et vendredi dernier, la Cour de justice de Londres a dit que un procès aurait lieu à partir de mars 2027 et que ces communautés pouvaient légitimement demander des dommages et intérêts et demander une compensation comme la communauté de Bodo a pu réussir à avoir au milieu des années 2010.
Alors on a bien entendu ce que vous avez dit l'un et l'autre depuis le début de cette émission, Benjamin Auger et Moïse Gomis, que l'État du Nigeria n'a aucunement l'intention de tordre le bras à ces multinationales, contrairement à ce qui peut se passer dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. On a parlé récemment du Mali où la junte militaire, avec toutes les questions par ailleurs que ça pose, mais essaye de contraindre les entreprises étrangères, les grandes majors du pétrole, à mieux répartir les profits. Le Nigeria, ce n'est pas son sujet aujourd'hui, manifestement. Il s'est quand même engagé, le Nigeria, à réduire à zéro les émissions de CO2 d'ici à 2060, lors des dernières COP. Donc, manifestement, il n'est pas en train de s'organiser pour tenir cette promesse-là. Est-ce que le Nigeria peut sortir du tout pétrole, Benjamin Auger, et comment ?
Bon, ça c'est un discours de campagne, hein, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'hommes politiques qui parlent de la diversification économique. La réalité est que ça ne se passe pas et que le budget fédéral, donc qui est déjà complètement famélique, hein, parce que c'est 30 milliards de dollars, donc c'est quasiment le même qu'en Côte d'Ivoire avec 10 fois moins d'habitants, fonctionne principalement grâce aux revenus du pétrole et du gaz. Donc pour le moment, il n'y a rien de particulier qui permettrait à ce que justement l'État fédéral puisse fonctionner avec d'autres revenus ou d'autres secteurs d'activité. Ils essayent de fiscaliser davantage, notamment dans un certain nombre d'États qui sont un peu mieux gérés, comme l'État de Lagos. Donc là, on arrive un peu à fiscaliser les entreprises qui sont localisées. Mais pour le vrai fonctionnement de l'État fédéral, on est toujours dans le tout pétrole. Et la date de 2060 est très très rigolote, hein, elle est très très drôle. Parce qu'en fait, en 2060, normalement, Nigeria produira quasiment plus rien. Donc c'est extrêmement facile de donner ce genre d'objectif-là. Le monde va changer. Et des pays comme, par exemple, comme la Chine s'organisent pour ne plus dépendre du tout du pétrole et du gaz, puisqu'ils en importent beaucoup. Donc ils veulent vraiment sortir du tout pétrole. Et donc 2060, la production pétrolière et gazière au Nigeria sera résiduelle. Donc ça sera très facile de faire baisser les émissions.
Et en attendant, des entreprises donc s'engagent à dépolluer ou ils sont contraintes par la justice, et notamment anglaise, puisque c'est devant un tribunal à Londres que s'est tenu le procès de Shell. Et on voit dans le documentaire de Moïse Gomis des avocats aller sur place pour prélever des sédiments et voir si la dépollution a bien lieu, si les quantités de pétrole diminuent dans l'eau. Alors on entend quand même, parce que la dépollution semble très très difficile, c'est difficile de venir à bout de cette pollution, on entend quand même Princess Jordan, dont on parlait tout à l'heure, elle récupère et elle trie consciencieusement avec une équipe des graines de mangrove pour les replanter, des propagules, dit-elle, mon or à moi.
Fellow countrymen and women, we have gathered here to protest the environmental devastation caused by the oil industry in the Niger Delta. The inhumane conditions under which our people are forced to live is a constant reminder that we do not belong to the artificial entity called Nigeria.
Un blues du Delta, non pas du Mississippi, mais du Delta du Niger, Niger Delta Blues, du groupe nigérian Bantu. Ici avec Tony Allen, le batteur et co-inventeur de l'afrobeat. Bantu, c'est un groupe basé à Lagos de 13 musiciens menés par Adé Bantu, qui a notamment participé à la campagne contre Shell en Allemagne cette fois, et qui avec ce blues du Delta du Niger proclame un requiem contre l'industrie pétrolière. Une histoire d'artiste engagé pour la défense du Delta et des populations, à l'image de l'écrivain Kensaro Wiwa, fondateur du mouvement Mozop et condamné en 1995 pour le meurtre qu'il a nié jusqu'au bout de quatre dirigeants d'une province pétrolière.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
No possibility whatsoever.
Il est impossible que le Mozop ou moi ayons planifié une telle action. Et j'en fais le serment. Quelle que soit la décision d'une quelconque assemblée. J'en appelle à vous, monsieur, pour une seule chose. Le peuple Ogoni a énormément souffert dans ce pays. Il a apporté d'énormes contributions à ce pays. Le delta du Niger lui-même est en grand danger. Nous avons besoin de toute l'aide possible.
Kensaro Wiwa, en 1995, le jour de son jugement et de sa condamnation à la peine de mort. Écrivain nigérian, il est devenu militant écologiste à la fin des années 80 et il est à l'origine du premier mouvement de contestation de l'exploitation pétrolière. Bonjour Benjamin Bibas.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialiste dans les droits humains et les droits environnementaux. Vous avez notamment organisé toute une conférence documentaire autour de la figure de Kensaro Wiwa il y a quelque temps au centre Paris Anime Kensaro Wiwa. Cet homme qui est né en 41 dans cette petite région du delta du Niger qu'on appelle Ogoniland, région qu'il a quittée dans sa jeunesse pour travailler dans la fonction publique nigériane. Quel administrateur était-il alors avant de devenir le militant de l'environnement que l'on connaîtra? Est-ce que vous êtes encore avec nous, Benjamin Bibas? Alors, je peux me tourner vers Benjamin Auger.
Oui,
vous êtes encore là. Voilà, pardon, bon. On vous a perdu. Voilà, je me demandais quel administrateur nigérian il a été avant de découvrir ce qui était en train de se passer dans sa région d'origine, dans le delta du Niger.
Il a été un jeune administrateur nigérian. En fait, il est né en 1941, donc il devient administrateur nigérian à partir de 1965. Et en fait, il est administrateur territorial et il va. Il est originaire, hein, bien sûr, de Logoniland, qui est un petit territoire au sein du delta du Niger, peuplé à l'époque d'environ 400 000, 500 000 habitants. Et il va administrer une partie du territoire pour l'État nigérian. Et ce, y compris pendant la grande guerre du Biafra, qui est une guerre de sécession, en fait, hein, de tout le sud-est nigérian, le sud-est qui comprend tout le delta du Niger, c'est-à-dire la partie pétrolière, hein, du pays. Et donc le Biafra voulait faire sécession parce que il constatait que le Nigeria garder les ressources du pétrole pour l'ensemble du pays, peut-être même au profit des élites dirigeantes du Nigeria, il restait plus grand chose pour le sud-est du Nigeria d'où était issu le pétrole. Et dans ce contexte-là, cette guerre qui a été terrible, hein, parce que la répression nigérienne a été féroce, le gouvernement nigérien a organisé un blocus du Biafra qui a causé une famine énorme qui a généré plus d'un million de morts, donc c'était vraiment terrible. Eh bien, dans ce cadre-là, Kensaro Wiwa est resté fidèle à l'État du Nigeria.
Tout comme les Britanniques qui soutiennent donc le gouvernement du Nigeria, alors que la France du général de Gaulle soutenait les sécessionnistes des histoires de pétrole aussi là-dessous à cette époque-là. Donc Kensaro Wiwa reste à son poste, il devient écrivain, il écrit Sosa Boy en 1986 qui raconte justement la vie d'un jeune soldat enrôlé dans la guerre du Biafra. Comment et quand va-t-il prendre conscience de ce qui se passe dans sa région d'origine, du scandale de la pollution du delta du Niger par le pétrole?
En fait, dans les années 80, il devient écrivain à succès. Comme vous l'avez dit, il écrit Sosa Boy, il écrit aussi il écrit un roman, Bassi, très populaire, qui devient ensuite une série télévisée. Et là, il devient un homme très très populaire au Nigeria, puisque sa série télévisée, Bassi, est regardée par plus de 30 millions de personnes chaque jour au Nigeria. Mais dans le même moment, il n'oublie pas sa terre natale, et à ce moment-là, ça fait désormais une trentaine d'années que le pétrole est exploité dans le delta du Niger, en Terogoni, puisque l'exploitation commence en 1958, et on commence à avoir des conséquences sanitaires immenses chez les humains. La pollution engendrée par le pétrole, le torchage, les fuites de pétrole, les oléoducs, la corrosion, etc., rendent les rivières du delta impropres à la pêche. Il n'y a plus de poissons, on ne peut plus cultiver la terre. À partir de là, les conséquences sanitaires sont majeures. Il y a des cancers par dizaines de milliers. L'espérance de vie décroît à nouveau. Elle commençait à croître à partir des années 50-60 et elle redescend dans les années 80 sous l'âge de 40 ans. Et dans les années 80, sur la population de 500 000 Ogoni, il y a environ 100 000 personnes qui quittent le territoire parce qu'ils sont obligés de le quitter. Ils ne peuvent plus vivre des ressources de ce territoire. À partir de là, il y a toute une protestation qui commence à émerger, notamment par des leaders traditionnels dans l'Ogoniland, mais Ken Saro-Wiwa va s'appuyer sur sa célébrité nationale pour donner plus d'efficacité à ces mouvements.
Et crée donc en 90 le MOSOP, le mouvement pour la survie du peuple Ogoni contre Shell, mais aussi contre Chevron ou la compagnie nigériane du pétrole, avec d'abord au départ des manifestations pacifiques qui rassemblent parfois près de la moitié du peuple Ogoni, lequel compte, je crois, à peu près 500 000 personnes, mais des manifestations de plus en plus musclées et des outils... Oui, pardon, dites-nous.
C'est important de mentionner le Ogoni Day du 4 janvier 1993, qui est une grande manifestation festive qui rassemble 300 000 personnes, c'est-à-dire plus de la moitié de la population de l'Ogoniland. C'est absolument massif. Et Ken Saro-Wiwa, comme il le dit dans l'archive que vous avez passée, il est très attentif à ce que le mouvement reste non-violent. Pourquoi ? Parce qu'il a vécu la répression de la guerre du Biafra, répression absolument féroce, et il comprend qu'on ne peut pas s'opposer frontalement et violemment au gouvernement du Nigeria. En gros, trop de gens y perdent la vie.
Donc, à l'époque, c'est une junte militaire qui est au pouvoir, qui n'a pas l'air d'écouter ni de partager cette conviction que des Nigérians, le peuple qu'elle est censée défendre, sont en train de mourir à cause de la pollution provoquée par des entreprises étrangères. Et on saura plus tard, est-ce qu'on le savait déjà à l'époque, je ne sais pas, mais que l'entreprise Shell fournissait la junte, notamment en armes. Ken Saro-Wiwa est arrêté plusieurs fois dans les années 90. Il est finalement condamné à mort, puis pendu en 95 avec 8 autres chefs du MOSOP, mais il vient d'être accorder là la grâce à ces 9 personnes à titre posthume par le gouvernement nigérian. C'était le 13 juin. Est-ce que quel signal vous y voyez ?
Sans doute une forme de réhabilitation, bien sûr, de ces personnes. Peut-être aussi la reconnaissance que l'exploitation du pétrole est meurtrière. Et moi, s'il me reste là 2-3 minutes de parole, il y a quand même une idée force que je voudrais mentionner dans la pensée de Ken Saro-Wiwa. Oui, non, mais surtout qui tient à son bouquin publié en 1992, Genocide in Ogoniland. Il dit, voilà, ce qui se passe, c'est des dizaines de milliers de personnes qui meurent et plus de 100 000 personnes qui sont obligées de partir. Ça forme 20% de la population de l'Ogoniland. Si vous regardez le droit pénal international, quand il y a un déplacement forcé de population intentionnelle de 20% de population, c'est un crime contre l'humanité. Quand il y a des massacres de dizaines de milliers de personnes sur 500 000, donc une part non négligeable, c'est une destruction partielle de population et ça peut être un génocide. Évidemment, l'intention de Shell n'est pas de massacrer ou de faire partir les gens, si vous voulez. L'intention de Shell est d'exploiter le pétrole et de gagner de l'argent à partir de là. Mais néanmoins, les gens meurent prématurément par dizaines de milliers et les gens sont obligés de quitter le territoire par jusqu'à 100 000 personnes. Et donc, que ce soit intentionnel ou pas, les gens, c'est pas tellement leur problème. Le résultat pour eux est le même. L'intention de Ken Saro-Wiwa, c'est de dire que ce crime-là est très grave, même s'il n'est pas couvert par le droit international. C'est pour ça qu'il veut utiliser le mot génocide, qui est un peu suremployé, mais finalement il dit, si vous détruisez un milieu de vie par négligence, eh bien, in fine, vous avez des résultats meurtriers pour une grande partie de la population. Et ceci doit être couvert légalement, alors qu'il n'existe pas vraiment de couverture légale pour ça. Un peu plus tard, des juristes vont se servir de ce trou-là dans le droit pénal international. Polly Higgins, par exemple, qui est une avocate britannique écossaise, en 2010, va faire campagne pour introduire la notion d'écocide parmi les crimes connus par la Cour pénale internationale, à côté du crime de guerre, du crime contre l'humanité et du crime de génocide, en disant « lorsqu'une destruction massive de l'environnement a des conséquences humanitaires telles que des gens en meurent ou sont obligés de partir, eh bien c'est un crime qui doit être connu, un crime par la justice internationale, un crime extrêmement grave, il suffit pas de qu'il y ait l'intention, en fait. Même la négligence associée à une exploitation économique du pétrole fait que les résultats sont tellement graves que c'est un crime international.
Merci
et
beaucoup.
Ce début de pensée-là, il émerge chez Ken Saro-Wiwa.
Ken Saro-Wiwa, précurseur de cette notion d'écocide. Merci beaucoup, Benjamin Bibas, de nous en avoir parlé dans Culture Monde. Benjamin Auger, en effet, Shell n'a pas l'intention de détruire des vies ou de détruire l'environnement. En revanche, elle a l'intention de continuer à extraire du pétrole, mais le Nigeria aussi. Le Nigeria dont vous avez commencé à nous dire tout à l'heure que son intention n'était surtout pas d'aller vers le zéro pétrole et que les discours sont là-dessus très différents des actes.
Oui, c'est un pays membre de l'OPEP et comme tout membre de l'OPEP, il est complètement drogué au pétrole et du fait de la non-diversification de l'économie, il produira jusqu'à la dernière goutte possible si l'économie mondiale a besoin de pétrole. Et ça, c'est le vrai sujet d'un pays comme le Nigeria, mais comme tous les autres membres de l'OPEP. Il n'y a aucune envie d'en sortir malgré les discours dans les COP. Et justement, il y a beaucoup de lobbying de la part des présidents du Nigeria, notamment de l'ancien vice-président du Nigeria, pour faire en sorte qu'on refinance les hydrocarbures, alors que la Banque mondiale a interdit le financement des hydrocarbures depuis plusieurs années. Donc il y a un vrai lobbying pour faire en sorte que ça puisse perdurer encore quelques décennies. Et pour le coup, il a un très très bon avocat grâce à l'arrivée de Donald Trump au pouvoir.
Merci beaucoup Benjamin Auger. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne et énergie climat de l'IFRI. Et je remercie beaucoup Moïse Gomis qui était avec nous en direct depuis Lagos, correspondant pour France 24 et RFI, et dont le documentaire Nigeria, les germes de l'espoir, co-réalisé avec Judith Rueff, est toujours en ligne sur Arte. Nous mettons le lien sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup Moïse Gomis également. Et c'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Adrien Toffelet.
Avec ce matin une question, Adrien. En Allemagne, un journal peut-il publier des contenus anticonstitutionnels ?
Oui, la justice hier vient de lever l'interdiction de publication du magazine Compact, interdiction prononcée le 16 juillet dernier par la ministre de l'Intérieur de l'époque, qui l'accusait de propager la haine contre les personnes juives et les personnes issues de l'émigration. Compact, c'est un mensuel d'extrême droite lancé en 2010, diffusé à 40 000 exemplaires, présent aussi sur le web, fondé par Jürgen Elsasser, un ancien militant d'extrême gauche qui est aujourd'hui proche du parti d'extrême droite Alternative for Deutschland et qui défend une ligne anti-immigration, anti-européenne, pro-russe, complotiste aussi, pointant du doigt George Soros et les vaccins notamment. Mais malgré tout cela, l'interdire en Allemagne est impossible pour notamment une raison énoncée hier par le juge Ingo Kraft diffusé dans ce reportage de Tagesschau.
Das Grundgesetz garantiert jedoch im Vertrauen auf die Kraft.
La loi fondamentale, s'appuyant sur la force du libre débat social, garantit la liberté d'opinion et la liberté de la presse, même aux ennemis de cette liberté. Une décision de justice reçue de façon mitigée dans la presse. Il y a bien entendu Compact qui fanfaronne sur son site, salue une victoire historique et propose même déjà à la vente un t-shirt avec inscrit « Défaite du gouvernement fédéral ». À l'inverse, sur le site de la NTV et sur le site de Stern, on constate la défaite de l'ex-ministre de l'Intérieur à l'origine de l'interdiction et on la déplore car c'est un cadeau fait à l'extrême droite, peut-on lire, car au lieu de l'affaiblir, elle la met en position de force avec une décision qui pourrait en plus profiter à l'AFD, parti que beaucoup voudraient voir exclu du paysage politique. Ils en veulent pour preuve la réaction du rédacteur en chef de Compact, Jürgen Elsasser. S'il est impossible d'interdire Compact, il est aussi impossible d'interdire l'AFD qui est accusé des mêmes torts. Zeit, le sous-de-chute Zeitung et la Frankfurter Allgemeine Zeitung voient toutefois dans cette décision du juge un élément positif, la qualification claire de certains contenus, le concept de remigration porté notamment en Allemagne par l'identitaire Martin Sellner, dont Compact a fait l'un de ses héros. Ce concept, explique le juge, viole la dignité humaine. Par ailleurs, la classification ethnique des citoyens allemands défendue par le magazine, entre « vrais Allemands » entre guillemets et « Allemands de papier », est bel et bien contraire à la Constitution. Mais ce que le jugement précise, c'est qu'un journal peut publier tout type de contenu, même s'ils sont anticonstitutionnels, dès lors que ces contenus problématiques ne constituent pas l'ensemble du magazine. Alors, l'horoscope et les sudokus sont-ils suffisants à éviter l'interdiction? On ne sait pas. Pour NTV en tout cas, les éditeurs extrémistes ont désormais la recette pour publier tout ce qu'ils veulent en évitant l'interdiction.
Et tout cela dans un contexte politique où l'AFD, première force d'opposition en Allemagne, force d'extrême droite, est aussi visée par des procédures.
Oui, début mai, l'Office de protection de la Constitution, un des services des renseignements intérieurs, a déjà classé le parti comme extrémiste de droite avéré, ce qui n'est pas sans conséquence dans le pays, car ouvrant la voie à un placement sous surveillance intensive. Pour l'Office, l'idéologie de l'AFD n'est pas compatible avec l'ordre démocratique fondamental. Mais si le gouvernement récemment s'est montré défavorable à une interdiction du parti, au niveau régional, des mesures sont prises pour limiter son influence. Die Welt et Zeit nous informent de cette décision prise par le Land de Bavière. L'AFD sera ajoutée à leur propre liste régionale des organisations extrémistes, au milieu de 200 autres formations politiques et organisations diverses, comme le NDP, un petit parti nazi, des mouvements anarchistes et d'extrême gauche, ainsi que les Frères musulmans et même Al-Qaïda. Cette liste permet aux autorités de vérifier la conformité des profils qui postulent dans les services publics, ou comme l'explique le ministre de l'intégration de Bavière, Joachim Herrmann, les enseignants, les policiers, les juges portent une grande responsabilité envers notre État et doivent donc garantir qu'ils défendent l'ordre fondamental démocratique et libéral. Ça ne signifie pas une exclusion automatique pour chaque personne encartée à l'AFD, mais les autorités précisent que chaque cas sera étudié.
Et pendant ce temps, un écrivain dont les travaux sur le nazisme sont reconnus de longue date vient de publier un best-seller.
Oui, roman publié à titre posthume. L'auteur Sébastien Hafner est décédé en 1999. Mais ses enfants, racontent le Spiegel et le Guardian, se sont décidés à publier ce livre découvert quelques temps après sa mort. Un homme qui a été l'un des journalistes européens les plus influents de l'après-guerre, qui a notamment publié des livres racontant la montée en puissance du parti nazi avant sa fuite d'Allemagne en 1938 avec sa petite amie juive. L'histoire raconte que Sébastien Hafner aurait connu une reconnaissance immédiate, fulgurante en 1940, grâce à un livre « Allemagne, Jekyll et Hyde », Winston Churchill aurait même demandé à son cabinet de le lire afin de comprendre la menace nazie. 90 ans après avoir écrit le manuscrit d'Adieu, qui vient donc d'être publié il y a quelques jours et qui raconte à travers une histoire d'amour les derniers jours de la République de Weimar, comment l'extrémisme est porté au pouvoir, c'est ce livre dans le contexte mentionné juste avant qui est le plus vendu en Allemagne aujourd'hui.
Merci beaucoup Adrien Taufollet. Et comme il y a de fortes chances pour que Culture Monde n'ait pas lieu demain, ce sera le premier jour d'une grève contre le projet de réforme de l'audiovisuel public, réforme qui prévoit de ne plus assurer de budget propre à la radio et qui permettra les productions externes ainsi que la création de filiales très faciles à terme à supprimer. Alors je profite de ce petit espace pour vous dire combien ça a du sens cette année encore pour nous de préparer des émissions sur une actualité internationale à bien des égards très lourde, très difficile et sur laquelle nous continuons à croire qu'il faut apporter le plus de rigueur et de complexité possible, d'abord grâce aux chercheuses et chercheurs, nos invités, mais aussi grâce à un travail d'équipe plus que précieux, tout simplement indispensable. Mélanie Chalandon, évidemment, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei, Léa Capuano et Gwendoline Troiano, à qui j'adresse un salut particulier, les yeux dans les yeux, après ces deux années passées ensemble. Antoinette Benoît, qui était en stage avec nous ces derniers mois, mais aussi Vivian Lecuivre, Cassandre Puel, Margot Page, Sam Bakiast, qui se sont succédés à la réalisation de cette émission. Toutes les techniciennes et techniciens derrière la console, main dans la main avec les réalisateurs et toutes celles et ceux qui nous ont rejoints parfois pour quelques jours, car si chacun sait ici que les contrats sont précaires, la radio ne pourrait pas fonctionner sans notre force vive et bien vivante. Culture Monde reprend dès la fin août. Quant à moi, je vous retrouve dès le 28 juillet pour la matinale d'été assurée d'abord dès lundi par Astrid de Villene. Merci beaucoup pour votre curiosité et la grande gentillesse et délicatesse avec laquelle la plupart d'entre vous nous écrivent quand il s'agit de commenter une émission.